journal, Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, des Algériens contre un fantôme au pouvoir depuis 20 ans. Vendredi, de manifestations partout dans le pays contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Jusqu'ici, la contestation a été pacifique, tout sauf la violence. On verra ça dans un instant. C'est aussi ce qu'espère la France, toujours très liée à l'Algérie. Elle était esclave de Daesh, yézidi, convertie de force aujourd'hui. Elle regrette le règne de ses bourreaux qui sont en train de tomber en Syrie. Témoignage rare et étonnant dans ce journal. À la une également un Hollandais dans le bureau de Bruno Le Maire. Ce matin, c'est son homologue à l'économie qui va s'expliquer sur sa montée au capital d'Air France KLM. Pendant qu'Emmanuel Macron petit déjeunera avec Alain Juppé à Bordeaux. Rien à voir. À 8h20, Ali, le plus jeune et le plus célèbre des réalisateurs québécois au micro.
Et l'un des grands réalisateurs d'aujourd'hui, Xavier Dolan. Il signe un film formidable, Ma vie avec John F. Donovan, et il sera l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Les Québécois qui se moquent gentiment de nous ce matin après l'acceptation par l'Académie française de la féminisation des noms de métiers hier. Eux, ça fait 40 ans qu'ils le font sans problème. Et puis en voilà un nouveau métier, plutôt masculin, gamer ou joueur de jeux vidéo. C'est très sérieux et ça peut rapporter gros.
France Inter.
Des foules debout contre un président assis, cloué dans son fauteuil et sans voix. Abdelaziz Bouteflika attend pourtant celle des Algériens pour une cinquième présidentielle. Le mandat de trop pour ces milliers de manifestants attendus dans tout le pays encore aujourd'hui. À partir de 13h après la prière du vendredi, comme tous les jours depuis une semaine, des étudiants, des avocats, des journalistes, dont certains ont été arrêtés hier, qui défilent dans le calme. Ce calme primordial, Thibaut Cavaillès, dans un pays marqué par tant d'années de violence.
C'était lundi dernier, devant les députés algériens, le Premier ministre Ahmed Ouyahia.
La Constitution garantit aux citoyens le droit de manifester pacifiquement, dans le cadre de la loi.
Pacifiquement, les manifestants n'ont pas eu besoin du chef du gouvernement pour décider de protester dans le calme. Dans les cortèges, le mot « Silmia » pour « pacifique » est entonné dès les premiers signes d'éventuelles heurts par des Algériens trop échaudés par l'actualité du monde arabo-musulman, et par une période noire encore dans les esprits. Massensen Cherbi est chercheur à l'université d'Assas, spécialiste de l'Algérie où il se trouve actuellement.
En raison des expériences au Moyen-Orient, en Égypte, en Syrie, il s'agit d'éviter absolument toute violence de part et d'autre. Par ailleurs, ils ont l'expérience des années 1990 qui est un rebutoir.
La décennie noire et sa guerre civile, 150 000 morts, les Algériens ne veulent plus de sang. Mais qu'en est-il des autorités qui, depuis une semaine, laissent plutôt faire? Massensen Cherbi.
D'est en ouest, du nord au sud, une grande partie de la population algérienne est dans la rue, toutes classes confondues, des jeunes générations aux plus anciennes. Pour un policier tiré sur la foule, c'est tiré sur ses propres enfants, sur ses frères, ses cousins, ses parents.
Et on l'a vu parmi les photos qui circulent, celle d'un jeune manifestant embrassant un policier présenté comme étant son père.
Et ces manifestations pacifiques, Paris les scrute de très près. Si l'Algérie n'est plus la France compte sur la stabilité algérienne. Christian Chesneau, entre Alger et Paris, ces enjeux-là sont fondamentaux.
Pour la diplomatie française, l'Algérie est le dossier piège par excellence. Paris ne veut pas être taxé d'ingérence, mais surveille l'évolution sur place comme le lait sur le feu. Xavier Driancourt, l'ambassadeur de France à Alger, est d'ailleurs venu cette semaine faire un point situation à Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, qui dit faire preuve d'une grande vigilance. La stabilité du plus grand pays d'Afrique est en effet cruciale en Méditerranée, alors que la Libye voisine a sombré dans le chaos depuis 2011. L'Algérie est en outre la gardienne des portes du Sahara, où l'armée française combat les djihadistes d'Al-Qaïda. Alger est également un partenaire économique de poids avec près de 5 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Le gaz algérien représente 10% des importations françaises. Dans l'autre sens, l'Algérie est un débouché pour le blé produit dans l'Hexagone. La densité des liens humains entre les deux pays et une histoire coloniale douloureuse donnent à la relation franco-algérienne une coloration passionnelle. D'où l'embarras de la diplomatie française, très vocale sur d'autres dossiers comme celui du Venezuela et qui, sur l'Algérie, fait preuve d'une extrême prudence.
Les djihadistes d'Al-Qaïda, toujours actifs au Sahara, ceux de Daesh en Syrie, sont en train de céder à Baghouz. Des milliers de civils fuient la région et parmi eux, notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni a rencontré une ancienne esclave yézidi du groupe État islamique, réfugiée dans un camp du Kurdistan irakien. On l'imagine libérée, elle ne l'est pas, comme si un syndrome de Stockholm la faisait regretter ses bourreaux.
Il y a un mois maintenant que Zena, yézidi de 29 ans, a quitté la région de Baghouz. Mais ce n'est pas l'État islamique qu'elle a voulu fuir, ce sont les bombardements de la coalition anti-djihadiste. Elle dit qu'elle aurait préféré rester, que la vie sous Daesh n'était pas si dure.
C'était bien, au début j'étais la bonne, je travaillais, mais après je n'avais plus le statut d'esclave. Les djihadistes m'ont donné les mêmes droits que les autres. Je me suis mariée, je ne travaillais plus pour les autres, j'avais ma propre maison.
Elle jure que si elle retrouve son mari, lui aussi converti, elle le rejoindra. Où qu'il soit, elle ne garde en mémoire que les bons souvenirs, elle occulte les mauvais. Et pourtant, ils sont nombreux, raconte Dounia de l'ONG Elis Care, à qui Zena s'est confiée lors de son arrivée dans le camp.
Elle a souffert au début quand elle était esclave. Elle a été vendue deux fois, il y avait la prière obligatoire, les leçons sur le Coran, l'obligation de se convertir. Et surtout, elle était torturée par les djihadistes et par leurs femmes qui la frappaient avec des bâtons, lui donnaient des gifles et des coups. Mais après le mariage, elle a tout oublié. Et maintenant, elle dit que sa vie sous Daesh était bien.
Repoussées par leur famille car converties, ces femmes regrettent leur vie dans le califat. Elles sont imprégnées par l'idéologie de l'État islamique, un État désormais moribond, mais qui, à travers elles, ne demande qu'à renaître. Au camp de Kaya, Eric Audra, Mathieu Mondoloni, France Inter.
Et sur le retour des djihadistes en France, ce chiffre donné à l'instant par Christophe Castaner sur France 2, il dit que 275 personnes sont revenues ces dernières années en France, ont été interpellées, jugées et emprisonnées dans la foulée. Le ministre de l'Intérieur qui révèle également qu'une attaque terroriste a été déjouée quelques jours avant le 17 novembre, au début du mouvement des Gilets jaunes. Un groupe s'était constitué pour perpétrer cette attaque qui a donc été neutralisée. Air France KLM, la France contre les Pays-Bas, voilà ce qu'on a retenu du raid boursier des Hollandais cette semaine sur la compagnie aérienne La Haye, qui pèse maintenant autant que Paris dans le capital d'Air France KLM. Le ministre de l'économie néerlandais s'en explique en ce moment même devant Bruno Le Maire à Bercy, Raphaël Ebenstein.
Trouvons ensemble une porte de sortie. La formule très diplomatique employée hier par Bruno Le Maire témoigne d'un léger radoucissement après l'agacement, voire la franche colère à peine dissimulée lorsqu'il a découvert l'opération néerlandaise mardi soir. L'heure est quand même toujours à la demande d'éclaircissement de la part des Pays-Bas. Pourquoi cette montée au capital au niveau de celle de l'État français? Pourquoi avoir agi en catimini dans le dos de la France? On est tombé de l'armoire, confiait-on ainsi dans les couloirs de Bercy. Et du côté d'Air France, on souhaite visiblement dépassionner le débat et on s'interroge sur le contexte. Le gouvernement néerlandais ne mènerait-il pas avant tout une opération de communication interne à 3 mois des élections européennes pour tenter de démontrer une forme de patriotisme économique? L'opération n'est pour l'instant pas payante, en tout cas pour les Pays-Bas, puisque l'action Air France KLM a encore perdu plus de 3% hier à la Bourse de Paris, après un véritable plongeon de 12% la veille.
Trois repreneurs potentiels pour les fonderies du Poitou et pour l'usine mitoyenne de Saint-Jean Industrie dans la Vienne. Ils ont déposé leur candidature hier. Les deux sites emploient 750 personnes. Deux des offres prévoient de garder à peu près 600 salariés. La troisième n'en conserverait que 300. Eux non plus ne sont pas tranquilles. Les agriculteurs qui vendent aux Anglais face à un Brexit, peut-être sans accord dans les semaines qui viennent, le secteur laitier et les pêcheurs sont particulièrement inquiets. Manuel Ruffez, ils vous l'ont dit au Salon de l'agriculture.
Un Brexit dur et c'est toute la filière pêche qui accuse le coup. 40% de la pêche française est faite dans les eaux britanniques, 600 bateaux environ sont concernés, mais les effets induits seraient plus larges sur l'activité portuaire, sur la transformation, sur la commercialisation. Jacques Vossy est le président de France Filière Pêche.
Vous allez avoir vos bateaux qui vont se retrouver dans des zones de pêche en concurrence avec des bateaux hollandais, des bateaux danois, des bateaux belges, des bateaux allemands. Et tout le monde va se retrouver sur le même territoire maritime avec un niveau de concurrence de pêche qui va être également extrêmement fort.
Même niveau d'inquiétude pour la filière laitière. 3% de la collecte laitière est exportée vers le Royaume-Uni. Le patron des producteurs de lait, Thierry Roquefeuille, avoue que la perspective d'une absence d'accord l'affole.
Ça veut dire que tous nos produits que l'on exporterait seraient plus chers au Royaume-Uni, puisqu'il y aurait un droit de douane qui rendrait plus cher nos produits. Donc si nos produits sont rendus plus chers, ça veut peut-être dire qu'ils seront moins compétitifs au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, dans ce même temps, peut peut-être faire un accord bilatéral avec les USA, avec la Nouvelle-Zélande, pour importer des produits moins chers.
L'avantage du Salon de l'agriculture, c'est que les uns et les autres ont pu aborder le sujet avec le président français, les ministres concernés, mais aussi les représentants de l'Union européenne. Et tous, nous dit-on, ont pleinement conscience des enjeux.
Manuel Ruffet, ce sera la photo du jour. Emmanuel Macron qui petit déjeune avec Alain Juppé ce matin à Bordeaux comme un pot de départ matinal avant la nouvelle vie du maire au Conseil constitutionnel. Deux anciens adversaires qui boivent un café, Cyril Graziani. Ils font quasiment partie de la même famille politique maintenant.
Octobre 2016, un temps pas si lointain. Alain Juppé fait figure de favori à la primaire LR, censé être un tremplin pour la présidentielle. Emmanuel Macron, lui, s'est lancé dans la campagne en solo. Et à la question de savoir s'il ferait un bon Premier ministre, le maire de Bordeaux, droit dans ses bottes, avait sèchement répondu qu'il n'avait ni les compétences, ni la loyauté. On connaît la suite. Le président de la République ne lui en a jamais tenu rigueur. La preuve, il a nommé Édouard Philippe un des plus fidèles lieutenants de Juppé à Matignon. Le rapprochement politique a même été plus franc ces derniers mois. Aux européennes, le parti Agir, qui réunit des juppéistes, cherche un accord pour s'allier avec La République En Marche. Mais le chef de l'État, pour Juppé, reste un mystère. Il regarde Macron avec un mélange d'interrogation et de fascination, en une forme de tentation inaboutie, décrypte un ami du président. De la rue de Montpensier, siège du Conseil constitutionnel, Alain Juppé pourra continuer à l'observer, mais il pourra surtout approuver ou bloquer les réformes d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui s'est invité hier soir à un débat de femmes à Pessac, près de Bordeaux, prise à partie par une participante qui lui a demandé d'enfiler un collier avec un pendentif gilet jaune, ce qu'il a refusé. On retiendra aussi ses mots sur le cynisme de Ford qui a refusé la reprise de son usine de Blanquefort dans la région et un peu plus tôt, devant des mères seules en difficulté dans un centre social, cette promesse de nouveaux mécanismes de garantie des pensions alimentaires.
France Culture Inter, 8h11, la suite du journal et une nouvelle plainte Florence contre l'ambassadeur du Vatican en France.
Elle vient du Canada. Cette fois, un homme dénonce des attouchements sexuels commis par Luigi Ventura, qui est déjà accusé par deux personnes en France. Et ces trois accusateurs signent ce matin une tribune sur libération.fr, s'insurgeant que le nonce ne puisse pas être entendu ni arrêté, puisqu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Écoutez Benjamin qui demande la levée de cette protection.
Là, on est dans une situation qui est vraiment très bizarre. On a de partout des volontés politiques affichées de mettre fin à ces agissements, de créer toute la transparence, enfin faire face à ces démons. Là, je parle de l'Église. Et au bout du compte, dès qu'il faut passer aux actes, il n'y a plus personne. Et là, pour le coup, on a un cas d'école magnifique. C'est une personne qui est fortement soupçonnée d'avoir agressé beaucoup de gens sexuellement et il est en poste. Ça, c'est une grande première. Il est en poste. Donc là, le Vatican a une occasion magnifique de transformer ses paroles en actes. Et là, il y a aussi l'État français, le gouvernement, qui a l'occasion de traduire en un acte très simple, diplomatique, ces beaux discours sur la protection des victimes.
Benjamin qui a porté plainte contre l'ambassadeur du Vatican avec Mathilde Lemaire. Plus de commentaires sous les vidéos YouTube qui montrent des mineurs, des contenus pédophiles. Ils sont régulièrement visibles, supprimés par millions par la plateforme de vidéos qui commençait à avoir un sérieux problème avec ses annonceurs qui retirent leur publicité du site pour ne pas être associés à ces propos pédophiles. Une auteure, une ingénieure, une chef des mots pour dire la place des femmes dans une langue qu'il n'avait pas prévue. L'Académie française a fini par s'y faire. Elle a accepté hier la féminisation des noms de métiers, souvent déjà employés au quotidien. Mais si la vénérable institution a attendu 2019 pour trancher le débat, d'autres se gaussent en nous regardant de loin comme les Québécois, pour qui la question ne se pose plus depuis 1979. Karine Lefebvre, productrice sur Radio-Canada, vient de consacrer une émission aux cousins français retardataires.
Notre première réaction, ça a été de dire quoi? Ils l'ont pas encore fait. Et puis, en deuxième lieu, enfin, arrivé en 2019, on peut facilement féminiser un métier sans porter atteinte à l'homme qui a déjà porté ce titre-là, par exemple. Ça nous a fait rigoler parce que on pensait que c'était déjà réglé. La féminisation des termes ici, pour nous, ça fait presque 40 ans qu'on y est habitué. Au Québec, on a eu une première ministre. On l'appelait Madame la première ministre. Elle n'était pas Madame le premier ministre. On dit mieux encore, on dit Madame la mairesse ici. On dit pas Madame la maire, on dit Madame la mairesse. Donc, de voir des gens buter sur la féminisation de certains termes, c'est pas commun. En tout cas, ici, on n'a jamais eu ce genre de débat-là. Ça nous a surpris que l'Académie soit encore en débattre en 2019. C'est pour ça qu'on vous a envoyé Dany Laferrière. comme académicien, on s'est dit, tiens, il va aller mettre un peu de bon sens dans cette académie.
Voilà, Dany Laferrière, haïtien et canadien, élu à l'Académie française il y a 6 ans, Karine Lefebvre répondait à Thibaut Lefebvre. Mais on n'a pas attendu l'Académie française, Ali, pour parler de footballeuses. Les Françaises, hélas, ont perdu leur premier match depuis un an face à l'Allemagne hier soir, 1-0 à 100 jours de la Coupe du Monde en France. Là, il y a nettement plus de garçons que de filles. Nous sommes à Katowice, en Pologne, où des joueurs du monde entier s'affrontent avec des manettes sur le jeu vidéo Fortnite. C'est pas de la rigolade, il y a un prix à 500 000 $ à la clé, si bien que certains en ont fait leur métier, comme ces deux gamers qu'a rencontré Bastien Munch.
Oh mais non ! Oh mais c'est un délire !
Eux, c'est Jules et Miz, alias Jules et Rémi. Le duo représente l'équipe d'e-sport Gamers Origin pour ce tournoi international.
Je pense que je me rends pas compte, mais ouais, c'est un truc de ouf. Faire l'un des plus gros tournois sur Fortnite actuellement, à 16 ans, il y en a pas beaucoup qui ont la même chance que moi, on va dire.
Alors c'est surtout le Graal, après beaucoup de sacrifices pour les deux joueurs, notamment pour Rémi, 22 ans.
J'étais chauffeur routier et j'ai tout plaqué pour vivre de ma passion. Ça a été une évidence quand j'ai arrêté d'être chauffeur routier. Je me suis dit, bah allez, je me donne un an pour essayer de percer là-dedans.
Un choix difficile et souvent encore mal vu dans notre société, mais heureusement, Rémi a eu le soutien de sa famille.
J'ai 3 frères et on a tous joué énormément aux jeux vidéo. Donc moi, mon père, il l'a plutôt bien pris et ouais, il m'a fait confiance et ça a marché.
Alors ça a aussi marché pour Jules, 16 ans, qui a arrêté le lycée depuis un an, mais au départ ses amis ne voyaient pas cette nouvelle activité d'un très bon œil.
Ils étaient en mode ouais, c'est un gamer et tout. Et je pense que le mot gamer est pas forcément bien vu des autres. Et après, quand ils voient que ça peut être un métier, bon, je pense que ça fait changer d'avis les gens, quoi.
Surtout qu'au total, c'est plusieurs millions d'internautes qui suivront le tournoi de Katowice.
Voilà, alors gamer ou pas, parlez-vous de nous, il y a que ça qui nous intéresse. Si vous voulez être juré du Livre Inter, présidé ce jury par Riyad Satouf, cette année, c'est la dernière ligne droite. Vous avez jusqu'au 6 mars pour nous écrire via internet sur franceinter.fr ou par courrier Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Parlez-nous de vous, parlez-nous de ce que vous aimez lire et puis pourquoi pas de ce que vous aimez jouer, parce qu'on peut tout à fait être lecteur et gamer, n'est-ce pas ?
Évidemment, voilà. C'est mon cas, merci Florence Paracuelos. Il est 8h17, tout de suite la météo de Stéphanie Fromentin.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Stéphanie, la journée s'annonce majoritairement grise.
Avec de la pluie à l'est et de la neige en montagne, sous un ciel bien chargé, les averses sont donc présentes ce matin sur le nord-est de la France. Elles régresseront en cours de journée vers l'Alsace, la Franche-Comté et le Nord pour s'atténuer petit à petit et donner un peu de neige sur les reliefs à partir de 1000 mètres sur les Vosges et le Jura, dès 1300 mètres sur les Alpes. Ailleurs, après une matinée assez grise, les éclaircies s'élargiront par l'ouest, suivis d'assez près par une nouvelle perturbation pluvieuse par la Bretagne en soirée. Seules les régions méditerranéennes, le sud des Alpes et la vallée du Rhône garderont un ciel plus ensoleillé grâce au vent d'ouest à nord-ouest qui atteindra 70 à 80 km par heure en rafale du golfe du Lion au littoral varois.
Et les températures sont encore douces pour la saison.
Elles culminent parfois 5 degrés au-dessus des moyennes, mais elles rejoignent doucement les normales. Vous vous réveillez entre 4 et 11 degrés en général. Les valeurs atteindront cet après-midi 10 à 15 sur la moitié nord, 14 degrés à 19 degrés sur la moitié sud, jusqu'à localement 20 degrés en Provence. Vous pourrez compter sur 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Amiens et Rodez, 14 à Paris, Nice et Angoulême, 16 à Toulouse, 18 degrés à Aubenas, jusqu'à 20 degrés à Manosque.
Merci Stéphanie.